Vous l'avez lu?
Oui, il est disponible.
Vous en avez d'autres de cet auteur?
Je cherche un jeu amusant.
J'ai beaucoup aimé ce livre.
Bonjour.
Je peux en prendre combien?
Mais la règle est trop longue.
C'est un ami qui me l'a conseillé.
J'ai adoré ce film.
Ça se passe comment pour s'inscrire?
Quand est-ce qu'il y aura une soirée jeu?
C'est un jeu de rôle. Vous l'avez?
Vous pouvez me le prolonger?
C'est super tout ce que vous avez.
Il existe des jeux pour seniors?
Zeste de culture, l'émission de l'équipe des médiathèques Chalosse-Tursan. Nous vous servons un cocktail vitaminé de livres, musique, films et jeux. Nous vous invitons aussi à nous retrouver lors de nos animations tout au long de l'année. À l'antenne aujourd'hui, Pascal, Sandrine et Christelle, animés par Gaëtan.
Et pour commencer cette émission, on va partir sur la sélection livres avec Pascal.
Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le livre de Trévanian Chibumi. Un roman d'espionnage et un livre culte.
Bah déjà, ce qui est intéressant avec ce livre, il me semble, c'est déjà tout simplement son auteur, qui peut être déjà aussi passionnant que son œuvre. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, alors, donc Trévanian, c'est un pseudonyme, et l'auteur n'a jamais révélé son véritable nom. Il est toujours resté dans le mystère et a entretenu le secret sur sa véritable identité pendant des années, alors que ses romans se vendaient à des millions d'exemplaires. Alors, il écrit essentiellement des romans d'espionnage, mais il a écrit également des nouvelles, des essais, et il n'a jamais accordé d'interview. Alors, avare de promotion, il reste dans la discrétion la plus totale, et il a même envoyé un faux Trévanian lors des cocktails littéraires pour dérouter les curieux. Finalement, sa véritable identité est révélée dans un article de presse et on apprend que l'auteur Trévanian est en réalité Rodney Whittaker, un professeur d'université américain. Mais il gardera toute sa vie d'auteur une aura de mystère, entretenue par sa volonté de rester discret. On l'a d'ailleurs décrété mort plusieurs fois, alors qu'il continue à publier sous différents pseudonymes. Et face à certaines incompréhensions, il répondra « Je préfère la dignité à la richesse ». Il finit par quitter les États-Unis pour partager sa vie entre l'Angleterre et la France, à Mauléon, dans la vallée de la Haute-Soule du Pays Basque. Et il meurt en 2005. L'auteur, en vérité, est aussi captivant que ses héros de romans, dont la vie parfois se mélange au destin de Trévanian. Et c'est le cas de notre héros dans Chibumi, Nikolai L., le héros assassin, qui, quand il prend sa retraite bien méritée de tueur, part se réfugier au cœur de la Haute-Soule, dans le château d'Etchebar.
Du coup, qu'est-ce qu'il raconte ce roman?
Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Nikolai L., qui est notre héros, est né à Shanghai. Il grandit seul avec sa mère, qui se dit de l'aristocratie russe, bien qu'elle n'ait aucune goutte de sang russe dans les veines. Il a un père allemand qu'il n'a pas connu et une origine autrichienne, puisque sa mère est de la lignée des Habsbourg. Il fait preuve de nombreuses qualités physiques et intellectuelles, c'est normal, c'est notre héros. Il est polyglotte très jeune, il parle le russe, le français, le chinois, l'allemand, qui est la langue de son père. Et au cours de sa vie, il en apprendra bien plus dans sa vie d'espion. Sa vie change peu avant la Seconde Guerre mondiale, quand Shanghai est envahi par l'armée japonaise. Un colonel s'installe dans la vaste demeure de Nikolai et de sa mère, le colonel Ishigawa, qui plus tard prendra en charge l'éducation de Nikolai. Ces trois êtres se rapprochent et le colonel Ishigawa se considérera comme un père de substitution pour Nikolai. Il l'envoie au Japon auprès d'un maître qui lui enseignera l'art du jeu de Go et la spiritualité japonaise. Et c'est là que se trouvent les prémices de sa future carrière de tueur. Mais cela, vous le découvrirez en lisant le roman.
Mais après ce contexte qui est fortement alléchant, est-ce que tu peux nous parler justement de la dimension espionnage du roman ?
Oui. Alors, des années ont passé depuis l'éducation de Elle au Japon, et nous sommes maintenant en pleine guerre froide. Et il nous manque les autres protagonistes de notre roman. Nous avons d'un côté la Mother Company, une organisation internationale protégeant les intérêts de l'économie pétrolière, et cela à n'importe quel prix, le plus simple étant l'élimination pure et simple du gêneur. Nous avons également la CIA, qui sert à l'occasion de bras armés à l'organisation. Nous avons aussi un représentant de l'État palestinien négociant ses intérêts pétroliers et la bonne marche des affaires. Et enfin, les 5 de Munich, une organisation créée pour venger l'assassinat des athlètes juifs aux Jeux Olympiques de Munich. Et enfin, Nikolai, qui par un hasard des circonstances, alors qu'il savoure calmement sa retraite dans le Pays Basque, se voit impliqué malgré lui dans cet embrouillamini sans nom. Voilà, vous avez les ingrédients d'un roman d'espionnage passionnant, teinté de l'humour acerbe et décapant de l'auteur, de spiritualité japonaise, de vengeance, d'amour, d'amitié et de meurtre.
Et pour finir cette présentation, est-ce que tu peux nous dévoiler le titre, ce que veut dire Shibumi ?
Alors, Shibumi, c'est un concept qu'a découvert Elle quand il a été au Japon quand il a suivi les préceptes de son maître. Shibumi, c'est la recherche de la beauté discrète. C'est une recherche du sensation du beau qui nous remplit. Voilà.
Eh bien, parfait. Du coup, qu'est-ce que tu nous as choisi comme interlude musical ?
Alors, comme intermède musical, je vous ai choisi Annie Tooney, mais cette fois chantée par les Wambly. J'ai voulu faire un petit clin d'œil aux origines indiennes de l'auteur Rodney Whittaker. Bonne écoute et merci.
Vous êtes sur Radio MDM 93.8 avec l'équipe des médiathèques Chalosse-Tursan.
Et maintenant, on enchaîne sur la sélection jeunesse avec Christelle.
Alors bonjour à toutes et à tous. En cette période d'après-fête où excès et paillettes ont probablement été de mise, je vous propose un voyage ressourçant en terre lointaine. Lâchons nos préoccupations quotidiennes, qu'elles s'évaporent au pied des montagnes enneigées, au profit de la nature, de sa force et de ses mystères. Mêlons-nous aux brumes de steppes de Mongolie et laissons-nous enchanter par le magnifique album de Nathalie Weiss et Jérémy Payet, Le pays du grand ciel, paru chez Kaleidoscope en septembre 21.
Et là-dedans, qu'est-ce qui t'a accroché immédiatement ?
Alors, en fait, ce qui m'a séduite au départ, c'est la force des illustrations, le réalisme et la poésie qui s'en dégagent. Je ne vous cache pas que ceci, en fait, m'a rappelé les traits de Rebecca d'Outremer ou celui de Quentin Créban dans ses albums Amoureux ou Maman. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais avec sa propre expression, en fait, Jérémy Payet distille ses encres de manière subtile et vibrante. Il insuffle la vie à ses personnages et à ses paysages oniriques, les animant d'un souffle puissant. Les émotions sont en première ligne et elles tourbillonnent dans un mouvement incessant. Il se passe réellement quelque chose de poignant. Et quelque chose de vrai aussi. Et c'est certainement appuyé par le travail de documentation qui aura été fait autour de la Mongolie. Mongolie, si rarement représentée en littérature jeunesse, vous en conviendrez. En fait, on y découvre le mode de vie nomade, les transhumances, les yourtes, les tissus, les imprimés ethniques, la faune et la flore de ces grandes étendues bordées de montagnes. Tout résonne avec justesse et humanité. Et il en est de même pour le texte.
Justement, en parlant de texte, qu'est-ce que ça raconte ?
Alors, au cours de cette immersion, nous faisons la connaissance de Nomine, une jeune fille qui n'a pas plus d'une dizaine d'années au début de l'album, et de sa grand-mère, avec qui elle entretient une relation qu'on pourrait définir de précieuse. Comme un lien entre elles deux, le loup. En Mongolie, le loup est un symbole de chance. Il est très respecté. Ce loup, la grand-mère de Nomine, a un jour eu l'honneur de le voir. Et la petite espère en admirer un aussi, quand elle sera prête. Au fil des gestes, des traditions transmises par sa grand-mère. Apercevoir ce loup majestueux serait alors comme la marque visible du franchissement d'une étape invisible, une sorte de rite de passage. Et c'est bien ce qui va se produire d'une certaine manière. Car au moment où le grand cycle de la vie se rappelle à Nomine et lui enlève sa grand-mère, à l'horizon, par-delà les steppes enneigées, se dresse enfin un loup. Un loup blanc, au regard tendre et familier. Un loup blanc, au regard de sa grand-mère.
Tu exprimes par là le fait que la narration, elle se base plus sur quelque chose d'abstrait, d'émotionnel.
Plus sur le ressenti, oui. Et en fait, en interprétant que le loup peut avoir le regard de sa grand-mère, c'est très personnel, parce que le texte ne dit rien. Il est d'une grande pudeur, il ne fige rien. Il n'y a aucune réponse toute faite. Tout reste mouvement. En fait, c'était un délicat tissage de croyances et de poésie laissé à l'interprétation de chacun. Mais figurez-vous quand même que dans le chamanisme mongol, le loup est le lien entre le dieu Tegur, dieu du cosmos, les hommes et les animaux. Il incarnerait ce passage invisible des âmes des défunts vers le cosmos. La jeune autrice Nathalie Weiss nous éprouve avec beaucoup de tendresse. Au fil des mots qui puisent leur magie dans les légendes mongoles, se tissent autour des traditions et de la transmission pour s'envoler en un message poétique et mystique.
Et tu considères que... Qu'est-ce que tu dégagerais comme thème là-dedans et tu penses que ça s'adresserait à quel public ?
Alors, il y a plusieurs thèmes assez lourds. Et au-delà du plaisir éprouvé par la lecture de l'album et de la force des illustrations, on y trouvera sûrement une ressource précieuse pour aborder avec les jeunes lecteurs, dès 4 ans, je pense, les thèmes de la transmission, de la perte d'un être cher, de la mort et du cycle de la vie. D'autant que, comme on l'a déjà évoqué, le ressenti est privilégié, les possibles ouverts et l'interprétation personnelle reste libre comme l'air. Libre comme le vent qui souffle sur les steppes de Mongolie. Vous retrouverez cet album à la médiathèque de Saint-Sever et je vous souhaite un bon voyage. Et pour rester dans cette atmosphère onirique et folklorique, je vous propose d'écouter Oung Mani Bamaï de la chanteuse mongole Deiking Tana. Sur Radio MDM avec l'équipe des médiathèques Chalosse-Tursan.
Et maintenant, la sélection musique avec Sandrine.
Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente l'album If Words Were Flowers, si les mots étaient des fleurs, de Curtis Harding. Avec cette sélection, je vous propose un voyage musical soul et optimiste.
Alors avant de nous parler de l'album, est-ce que tu peux nous parler de l'artiste, s'il te plaît ?
Alors oui. Curtis Harding est né en 1979 aux États-Unis. Son enfance a été bercée par la musique de sa mère, qui était chanteuse de gospel. Elle a été toujours accompagnée dans ses tournées par sa famille. Ainsi, Curtis a sillonné durant toute son enfance une partie de l'Amérique, avant que sa famille ne finisse par s'installer en résidence permanente à Atlanta, alors qu'il était adolescent. À ce moment-là, il a rejoint le groupe de CeeLo Green et sympathisé avec le groupe des Black Lips. Son avenir donc dans la musique était une évidence. Auteur, compositeur, interprète, batteur, guitariste, producteur, Curtis Harding est surnommé par la presse aujourd'hui comme le nouveau Stevie Wonder.
Déjà, ça nous fait un profil plutôt alléchant. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de son dernier album, s'il te plaît ?
Alors, son dernier album est sorti le 5 novembre dernier et c'est son troisième album. Cet album a été influencé par les manifestations faisant suite à la mort de George Floyd en mai 2020 et cet album a été enregistré en pleine pandémie. Aussi, il offre 11 chansons. 11 chansons qu'il délivre comme autant de messages d'amour et d'espoir en cette trouble période. D'ailleurs, cette volonté se manifeste avec l'une des premières chansons de l'album, If Words Were Flowers, si les mots étaient des fleurs, qui a donné son nom à l'album. Celle-ci fait référence à une phrase que lui disait sa mère, « Offre-moi des fleurs tant que je suis là ». Et Curtis s'est donc donné cette mission avec ses chansons. Penser les plaies et répandre l'amour avant qu'il ne soit trop tard.
Et parmi ces 11 titres, est-ce qu'il y en a un que tu as choisi de dégager ?
Tout à fait, le titre Hopeful, que vous pourrez écouter à la fin de la chronique. Il a été dévoilé au printemps 2021 et il est un soutien au mouvement Black Lives Matter. Il s'accompagne d'un clip vidéo percutant réalisé par Lindsay Weatherspoon, une photojournaliste afro-américaine. Ce clip vidéo, filmé en noir et blanc, illustre cette résistance pacifiste contre les maux actuels de la société, le Covid, le racisme. La symbolique y est d'ailleurs très présente, puisque le film est donc filmé en noir et blanc. On y voit le chanteur masqué, les bras tendus vers le ciel, des manifestants, les poings levés, et le portrait de Martin Luther King régulièrement représenté et concluant le clip vidéo. La même puissance se retrouve dans la voix de Curtis, portée par le mélange soul, rétro des années 60-70, des chœurs de gospel et des riffs électriques de guitare blues. Car, pour Curtis, telle est la soul. Alors, je le cite, « Ni un feeling, ni un son, ni un mouvement, mais une connexion. » Qu'il a retrouvée aussi bien dans la scène punk d'Atlanta, des concerts de rap, que dans certains disques de Bob Dylan. Sa voix, sa musique est la synthèse de tout cela. Une synthèse de soul, rock, blues, gospel, de psychédélisme et de R&B. Il appelle ça le slop and soul. Le slop correspond en anglais à une mixture, un mélange qui symbolise pour le chanteur la culture du sud des États-Unis. Quant à la soul, c'est celle de son héritage.
Donc, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans ?
Tout. C'est un album, c'est un véritable coup de cœur, tant pour le message qu'il délivre que pour la musique. L'un est aussi puissant et émouvant que l'autre. Je ne peux que vous conseiller très fortement cet album que vous pourrez retrouver à la médiathèque d'Agetmo. Je vous laisse donc écouter le morceau Hopeful de l'album If Words Were Flowers de Curtis Harding.
I won't settle for less. I'm convinced, and once I'm convinced, then I manifest. A catalog of parables is broke down in a tongue that's been corrupted, no substance to be hidden from. Now it's erupted, brought forth from a dream. A stream underwater without a hopson to sing. Not the pacifier, but homie, to truly change. When you stare at the heavens, you see the stars rearrange. So be storm
music motivated, a more melodic melody that moves and mediates. Evolution of change that pulsate the mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gather thicker than sofas, live and don't fret, cause it ain't over yet. By the time it is, the crowds are turning to cheers. No fears, just hold on tight, because the darkness will be over by the end of the fight. With doubts and fear, jealousy, all the things that cause casualty, to your soul, let it go. Most of all, be hopeful.
Toutes nos actus sur le site www.chalosturcent.fr et sur la page Facebook. Zeste de culture, l'émission des médiathèques Chalosturcent. Nous vous disons à bientôt sur les ondes de Radio MDM.
Vous l'avez lu ?
Oui, il est disponible.
Vous en avez d'autres de cet auteur ?
Je cherche un jeu amusant.
J'ai beaucoup aimé ce livre.
Bonjour !
Je peux en prendre combien ?
Mais la règle est trop longue.
C'est un ami qui me l'a conseillé.
J'ai adoré ce film.
Ça se passe comment pour s'inscrire ?
Quand est-ce qu'il y aura une soirée jeu ?
C'est un jeu de rôle. Vous l'avez ?
Vous pouvez me le prolonger ?
C'est super tout ce que vous avez.
Il existe des jeux pour seniors ?